Bien, à mon tour. Je commence par une histoire. Donc, on est sur un bateau, puis il y a un type qui fait un faux mouvement, il tombe à l'eau. Et il coule, il fait un effort vertigineux pour remonter. Bon, il remonte et il voit deux formes, deux têtes penchées sur le bord du bateau, puis il recoule. Là, il fait un effort pour remonter. Il fait un effort pour remonter et il distingue mieux les têtes, puis il recoule encore une fois. Puis là, il sent que cette fois, il faut faire quelque chose. Donc, il sort encore la tête de l'eau et il crie aidez-moi. Alors, la première personne qui était penchée sur le bateau, qui se trouvait une assistante sociale qu'il avait connue avant, dit ah, enfin, tu la formules ta demande. Et l'autre personne qui était à côté lui dit, eh, oui, l'autre c'était un psy. Il dit, oui, non, mais est-ce la vraie demande? Voilà, l'accompagnement est confronté à des questions de ce genre. Nous allons en parler. Il y a un PowerPoint qui est projeté ici. Il y a une version longue qui sera à votre disposition. Mais même la version courte qui est là sera sans doute sérieusement allégée en cours de route. Donc, je ne me présente pas davantage, c'est écrit. Vous avez les écrans de contrôle, si jamais quelque chose n'est pas très lisible sur l'écran blanc, j'ai voulu faire le malin et travailler sur écran fond noir, mais en fait, ça aurait été plus intéressant de travailler sur fond blanc avec des lettres noires. Bon, voilà. Ça servira de leçon. Puis je ne connaissais pas l'orientation du soleil. Donc, ce dont je vais vous parler vous concerne et concerne les gens dont vous vous occupez. Pardon, les gens que vous accompagnez. Et je voudrais que vous ne vous oubliez pas vous-même dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'accompagnement seulement en direction des destinataires de votre intervention, mais qu'on parle aussi de vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous pouvez faire pour vous sentir mieux. Et d'ailleurs, l'un des mots-clés sur lequel certainement se terminera mon intervention, c'est le mot impuissance. Alors, si vous voulez, avant d'entrer dans le détail, c'est confortable pour moi parce que j'ai un peu de temps. Donc, mon collègue était chargé d'introduire, moi je suis chargé de vous assommer. En gros, je vais placer l'accompagnement par rapport à deux démarches qui vont avec. L'une, c'est ce que j'appelle la désinstitutionnalisation, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est-à-dire c'est quelque chose qui concerne la manière dont l'institution dans laquelle vous vous situez et qui vous paye parfois, enfin qui vous paye, je veux dire qui vous paye régulièrement, j'espère, ou qui vous paye peut-être sur projet. Donc, d'un côté, l'institution et l'objet est interrogé dans sa pratique en tant qu'institution et en quelque sorte on l'enjoint de se défaire d'elle-même, de se désinstitutionnaliser. Et de l'autre côté, les pratiques d'accompagnement sont aussi interrogées. Mon collègue vous a bien montré comment elles viennent de loin. Comment elles sont floues, il est donc facile de les interroger, de les critiquer, de les dénoncer. Et la notion que je vais mettre en avant pour comprendre ce qui est interrogé dans la pratique d'accompagnement, c'est la notion que je ne traduis pas pour l'instant, mais on la verra tout à l'heure une traduction, la notion d'empowerment, c'est-à-dire une certaine façon de se comporter vis-à-vis des capacités des personnes dont vous vous occupez. Simplement, comme je vous l'ai dit en commençant, je ne voudrais pas que vous vous oubliez vous-même. Et donc, je parlerai aussi de l'empowerment des équipes de travail et pas seulement des destinataires de l'intervention. Voilà, en gros. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ? Bon, bah, on peut arrêter, alors. C'est ça, ça va. Ah, il faut développer. Ah, ouais. Bon. Alors, c'est lisible. Bon, de toute façon, je vais causer, donc... en gros, une des choses que vous avez pu voir à travers l'intervention de mon collègue, c'est que ces résumés-là, c'est que l'action sociale, je prends en un sens très général, peut-être que certains d'entre vous ne se reconnaîtront pas dans le terme d'action sociale, donc prenez social dans un sens assez général et pas restreint au sens étroit de travail social. Donc l'action sociale tend à se fragmenter et finalement, elle a abouti, au bout d'un long processus, à faire en sorte que le critère d'évaluation favorable de l'intervention sociale, c'est l'implication de l'usager, en gros. Hein. Normalement, si je dis vrai, tout ce que je vous dis là, vous le savez déjà. Hein. Je vais juste mettre des mots savants sur des choses que vous savez déjà, en espérant que ça crée des petits décalages. C'est ma seule ambition. Donc, l'implication de l'usager est devenue l'un des critères de validité de l'intervention sociale. Et la notion d'accompagnement peut recevoir un contenu là-dedans. Moi, je voudrais quand même faire remarquer que tout ça repose sur une certaine vision de ce que c'est que le sujet de l'accompagnement. Et le terme savant, pour dire ça, c'est des processus de subjectivation. En gros, pour aller vite, hein, on va voir comment le travail social au sens large d'accompagnement, qui vise à donc à promouvoir l'implication de l'usager à son rythme, comme on le verra avec la notion d'empowerment, eh bien, ce travail social d'implication de l'usager, c'est une certaine forme de production d'un sujet chez le destinataire. C'est-à-dire, en gros, ça pose la question, qu'est-ce qu'il était le sujet ? Quel était le sujet qu'il était en arrivant ? Et qu'est-ce qu'on fait comme sujet de lui ? Bon. Mais ne ressentez aucune culpabilité d'avance à l'idée que vous puissiez peut-être transformer de façon maléfique un sujet qui était vachement bien en arrivant. Non, c'est l'idée que, vous le sentez peut-être en filigrane, c'est que toute activité sociale, qu'elle ait à voir ou non avec le non-emploi, qu'elle ait à voir ou non avec ça, toute activité sociale est une activité qui est à la fois une activité de subjectivation et une activité de désubjectivation et resubjectivation. C'est-à-dire, en gros, on arrive avec une certaine façon de se voir, on la perd en route et on en conquiert une autre. Et simplement, nous, la responsabilité que nous avons en tant que professionnels, je me permets de dire nous, comme si j'étais encore en activité, alors que vous voyez que ma tête m'indique bien que je suis à la retraite. Nous avons un travail sur un destinataire qui est un travail qui ressemble finalement à ce que chacun fait tous les jours, mais qui a des enjeux particuliers et donc une responsabilité particulière de ne pas évidemment se rater. Donc ça, c'est un peu le but. En gros, on dit aux gens, vous faites de l'accompagnement, vous devez impliquer l'usager. Pour ça, l'institution de son côté, elle essaye d'être la moins institution possible. Elle se désinstitutionnalise, elle éclate, elle fait des antennes, elle envoie des gens à l'extérieur, etc. Elle désinstitutionnalise. Évidemment, personne n'est dupe, personne ne peut croire qu'on peut se passer d'institution. Mais peut-être, comme on le verra, on peut se passer des institutions les plus folles. Alors, donc, je viens d'expliquer ça. Ça, c'est la diapo qui rentre dans le détail. Mais en gros, vous avez compris. En gros, toute subjectivité est le résultat d'une subjectivation, c'est ce que je viens de dire. Ça n'a rien à voir avec les gens dont vous vous occupez. C'est votre cas aussi. Hein. Vous avez appris à vous voir d'une certaine façon. Hein. En gros, cette phrase qui est là, c'est moi qui suis cette personne désinstérée, handicapée, etc. C'est moi qui suis ça. Hein. C'est d'une certaine façon, votre travail d'accompagnant consiste aussi à produire éventuellement ce constat lorsqu'il ne se fait pas. Mais il est là déjà, la subjectivation s'est faite. Et évidemment, la subjectivation, dans une société comme la nôtre, elle peut conduire à ce que vous produisiez quelqu'un qui est un sujet, qui s'assume, qui est inséré ou qui est de plus en plus inséré, ou ça peut produire une larve. Mais le problème, c'est qu'il y a des larves qui sont insérées. Insérées à leur téléphone portable, par exemple. Donc, soyons pas si tranchés. Hein. Il y a bien un processus de subjectivation qui est général à la société, qui tend à, en quelque sorte, faire de nous ce que nous n'aurions pas forcément envie d'être, et pas seulement les gens dont nous occupons. Alors, ce processus n'est pas singulier, c'est-à-dire au sens où c'est pas chacun qui se subjective à sa manière et en faisant en sorte que... moi, je suis moi et je suis différent de mon voisin. En réalité, on se rend compte que la subjectivation dans notre société, elle est largement liée à des questions de genre, à des questions de milieu social, à des questions de génération, et que les subjectivations qui sont produites dans ces contextes sont différentes. Donc pour vous, c'est très important de savoir ça, parce que vous pouvez être parfaitement accurate, hein, vous pouvez être parfaitement au point sur un travail d'accompagnement, mais si vous n'avez pas tenu compte de la subjectivation générationnelle, genrée, de classe sociale, etc., des personnes dont vous vous occupez, eh bien, vous êtes comme les gens qui étaient sur le bord du bateau. Vous attendez qu'ils formulent la vraie demande, c'est-à-dire celle qui correspond à votre cahier des charges. Cahier des charges, hein, je n'ai pas dit cahier de décharge. Qui quelquefois aussi est un cahier de décharge. Voilà, bon, donc je ne développe pas plus, parce que finalement, le résultat de tout ça, c'est qu'au bout d'un processus d'accompagnement, il peut y avoir des transformations de la subjectivation des individus, peut-être même parfois des sujets qui vont s'assumer autrement, et on va voir comment la démarche d'empowerment peut remplir un certain rôle dans ce travail. Voilà. Donc, tout ça, vous l'aurez. Buvez mes paroles et n'écrivez pas des textes. Bien que mon collègue ait déjà fait un petit historique, je voudrais quand même situer l'apparition de ce processus dans un phénomène plus général. En gros, mais peut-être vous le savez déjà, ceux d'entre vous qui ont fait des formations dans le social ont peut-être eu des cours là-dessus, je vais quand même me permettre de le restituer pour les autres. En gros, on pourrait dire que le régime, le système capitaliste qui s'est formé, en gros, qui a commencé à avoir son plein cœur au XIXe siècle, il a connu jusqu'à nos jours, au fond, trois grandes périodes, j'appelle ça trois modernités. À chaque fois, c'était la modernité par rapport à ce qui était avant. La première modernité pour le travail du social, c'est ce qu'on pourrait appeler la modernité assistentielle, c'est-à-dire c'est la modernité dans laquelle l'acte d'intervention, aujourd'hui on dirait donc l'accompagnement, vise un sujet, vise une action, mais qui n'est pas cumulable, c'est-à-dire à chaque fois il faut recommencer. C'est-à-dire en gros, il n'y a pas d'instance de latéralisation, de transversalisation de l'action. C'est-à-dire en gros, vous faites quelque chose auprès de quelqu'un qui... en gros reçoit ça et puis il faut recommencer le jour suivant peut-être avec la même personne et ainsi de suite et ainsi de suite. Et cette première modernité, évidemment, elle est liée à ce que j'appelle des visions du monde, hein, j'appelle ça VDM, hein, en gros l'idée que la première chose qui est à la base, et donc vous comprenez bien, Vous verrez bien la différence de la notion d'accompagnement aujourd'hui par rapport à ça. C'est l'idée que c'est le souci de l'autre. En gros, le souci individuel de l'autre, assez peu équipé professionnellement, et lié à des conceptions du monde qui sont en quelque sorte cumulatives. C'est pour ça que j'appelle ça une modernité additive. C'est-à-dire, en gros, les actes s'ajoutent les uns aux autres et vous êtes épuisé à la fin de la journée parce que le lendemain, vous savez que vous allez recommencer la même chose. Je ne suis pas en train de dire que ça a disparu. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que c'est un premier stade où on n'a connu que ça. Et puis, il y a eu un deuxième stade. En gros, ce que j'appelle la modernité compensatoire, qui a, en quelque sorte, produit autrement, qui a d'abord reposé largement sur l'apparition du professionnalisme. C'est l'idée que, en quelque sorte, l'acte, ici, bon, par exemple, l'acte d'accompagnement, devait être professionnel. Il devait s'appuyer sur des outils transférables à d'autres situations, sur des outils qu'on pouvait décrire, et sur des outils qui pourraient figurer, par exemple, dans un répertoire ou dans un référentiel. Et cette modernité, elle est, pourquoi elle est compensatoire? Vous voyez, compenser. Compenser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, je ne peux rien direct, mais si j'interviens sur l'ensemble, sur le contexte, sur le pourtour, petit à petit, pas forcément par ruissellement, mais petit à petit, ça produira quelque chose et ça va se diffuser. Avec l'idée que, pour prendre un autre exemple, si vous voulez, dans la première modernité, j'achète un billet à un ouvrier pauvre pour qu'il aille au musée. Dans la deuxième modernité, je le forme à l'histoire de l'art. Donc, vous voyez, on a changé de modèle. Et dans la troisième modernité, on va lui demander où tu veux aller. Donc, la troisième modernité, c'est ce que j'appelle la modernité autonomiste, c'est là-dedans que nous baignons aujourd'hui. Tout le monde veut être autonome. Il n'y a pas d'accompagnement au sens que vous le pratiquez, ou vous le pratiquez aujourd'hui s'il n'y avait pas cette idée qu'il y a un impératif d'autonomie des personnes pour, en quelque sorte, se promouvoir elles-mêmes. Donc, cette modernité autonomiste, Elle est surtout très importante dans la mesure où elle va reposer sur l'idée qu'on va partir, en gros, de là où on est l'usager. Déjà, on va l'appeler usager dans des conditions bien particulières. Il va y avoir des bagarres terribles pour savoir si ça sera peut-être quand même tendanciellement un client. Dans d'autres cas, est-ce que ça sera un co-traitant? Il va y avoir toute une série de choses, mais on va voir ça plus loin. Donc, en gros, pour aller vite, la notion d'accompagnement telle que vous la pratiquez aujourd'hui, elle est forcément imprégnée de ce climat de la troisième modernité autonomiste, avec l'idée que l'autonomie, c'est le mot qui a prévalu partout. Autonomie, maintien à domicile des personnes âgées, voilà, c'est une conception autonomiste. Donc, si vous voulez, ça, c'est pour éclairer un peu le contexte. Je l'ai résumé ici. En gros, vous avez les périodes. Dans la première modernité, vous subjectivez les gens dont vous vous occupez en disant qu'ils sont aidés. Et vous êtes les aidants. Vous avez une conception de l'action qui est additive. La valeur, c'est la valeur de Koura, c'est-à-dire le souci de l'autre, et qui est en même temps un souci de soi, parce que vous vous sentez vachement mieux quand vous êtes bien occupé des autres. La vérité, hein, en gros, elle est dans l'intentionnalité. Dans la deuxième modernité, la subjectivation ne porte plus sur des gens qui sont des aidés, mais des ayants droit. C'est-à-dire, en gros, le contexte permet de définir à quoi ils ont droit. Vous travaillez sur le contexte, c'est compensatoire. Le modèle, la technique, c'est la cure, c'est-à-dire c'est une pratique de soins qui va reposer sur une technique. Et ce qu'on va vérifier, c'est est-ce que c'est adéquat ou c'est pas adéquat. La conception de la vérité, c'est l'adéquation. Dans la modernité autonomiste, cette fois, la personne n'est plus un ayant droit, mais elle est co-responsable de son destin. La vision du monde de l'action, c'est autonomiste. Le terme qui va s'employer, qu'on entend de plus en plus souvent est un terme anglais qui est le care, c'est-à-dire qui va reposer largement sur la sollicitation de l'environnement. Je rappelle quand même que le care se développe en Angleterre au moment où Madame Thatcher fout par terre le système en particulier de soins, et donc délègue en quelque sorte la pratique de la prise en charge à l'environnement social de la personne qu'il faut prendre en charge, en particulier sa famille, son environnement, etc. Bon, donc, il se trouve que, bien entendu, il y a d'autres interprétations possibles du terme de care, et que ce qui est arrivé en France n'est pas forcément de cet ordre-là et ne correspond pas au même contexte, évidemment. Et la conception de la vérité, c'est la performation, c'est-à-dire c'est l'idée que c'est en faisant que les choses vont se réaliser. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un objectif défini avec une étape. Malheureusement, je le dis en passant, les évaluateurs de vos actions, eux, ils vous demandent des étapes. Eux, ils ne connaissent pas les processus, ils ne connaissent que les étapes. Voilà. Bon, peut-être si je suis au pouvoir, ça pourrait changer, mais c'est un peu tard. Alors, bon, je peux passer là-dessus parce que, en gros, pour aller vite, je rejoins mon collègue qui a dit tout à l'heure, qui a insisté sur la question de l'individualisme. En gros, pour que ça marche, tout ce dont je viens de parler, à savoir cette modernité autonomiste qui va reposer sur l'activation des ressources telles qu'elles sont ressenties par les individus et non plus telles que nous les définissons, eh bien, ça repose forcément sur l'idée que c'est un individu qu'il faut identifier et non pas, en quelque sorte, le membre d'une classe ou le membre d'un genre ou le membre d'une génération. C'est un individu. Et cette individualisation, elle est bien entendu largement répandue. Et comme l'a dit mon collègue, le travail social participe lui-même au cadrage de cette individualisation. Qu'il le veuille ou non, il déploie lui aussi des modalités qui visent à ancrer cette forme de subjectivation. Donc je passe là-dessus, mais vous pourrez lire ça tranquillement. Ce n'est pas très important pour ce que j'ai à dire par la suite. Alors, comment s'en sortir? Bon, en gros, voilà, c'est un tableau un peu ironique que j'ai dressé, puisque au fond, chaque période que j'ai montrée a à la fois progresser par rapport à la période précédente, mais comporte quand même des limites. Et au fond, est-ce que l'idée que les institutions doivent en quelque sorte se fragmenter, s'éparpiller, devenir moins, en gros, qui est moins un endroit où on vient avec un guichet et qui est davantage des structures éparpillées. Mais est-ce que c'est indispensable. En fait, ce que je veux dire, c'est que on a en quelque sorte besoin des institutions, c'est-à-dire qu'on ne peut donc pas arriver au degré zéro de l'institution, mais on n'a pas forcément besoin de leur modalité de fonctionnement. Donc, en ce sens, quand vous allez pratiquer l'accompagnement d'une certaine façon, on va y revenir après, eh bien, vous allez avoir à faire à une institution qui elle-même doit se définir dans les attentes qu'elle vous fournit. Hein, qu'est-ce qu'elle vous demande? Parce que d'une certaine façon, l'institution, elle fait un peu comme la mère qui dit à son fils, je veux que tu sois libre. Hein, c'est-à-dire qu'elle dit, non, moi, allez-y, moi, je ne vous demande rien, allez-y. Bon, et en fait, à la fin du mois, ou à la fin de l'année, on demande quand même le bilan. Donc, on peut imaginer d'autres fonctionnements institutionnels. C'est la première chose. La deuxième chose, on a besoin des institutions, mais on n'a pas nécessairement besoin des modes de clôture existants. Parce que les modes de clôture, c'est quoi? Vous m'avez rendu service tout à l'heure quand vous avez demandé aux gens de se présenter. Parce que finalement, voilà, on peut voir, vous êtes dans la même pièce, vous êtes venu pour le même sujet, certainement pas avec les mêmes attentes, mais, cela dit, quels sont vos degrés de coopération? Quels sont vos degrés de mixité de travail? Comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'au fond, nous vivons avec des institutions qui sont clôturées sur elles-mêmes. Hein. Et il n'y a rien de plus exemplaire de ce point de vue-là qu'une réunion de partenariat. Hein. Une réunion de partenariat, c'est tout sauf du partenariat. On est bien d'accord. Parce que de toute façon, à la fin, il y a quand même un qui va décider. Par exemple, vous avez déjà assisté à une réunion de partenariat présidée par le sous-préfet ? C'est quand même lui qui, à la fin, dit quand est la date de la prochaine réunion. Donc voilà, en gros, nous sommes bien devant des modes de clôture institutionnels qui pourraient être revus. Et troisième chose, et ça revient avec l'idée de la subjectivation, on a besoin des institutions, mais on n'a pas nécessairement besoin du sujet qu'elles construisent. Et surtout si les différentes institutions, ne travaillant pas entre elles, construisent des sujets différents. Ou plutôt, attendent du sujet à insérer, par exemple, des pratiques différentes. Je vous donne juste un autre exemple qui ramène au temps du RMI. Je me souviens d'un dossier. J'avais fait la première évaluation du RMI en 88. Il faut dire que j'ai un certain âge. Et c'était très, très, très intéressant. Il y avait un type à qui la personne chargée du dossier... c'était une époque... J'ouvre une parenthèse. C'était une époque où il n'y avait pas eu de formation encore pour accompagner au dossier de RMI, et tous les professionnels disaient « on ne sait pas faire ». Phase 1. Phase 2, mais de toute façon, personne ne ferait mieux que nous. C'était ça. Donc, cet homme arrive et on lui dit « ben voilà, ce serait bien que tu ailles au CMP ». Donc, il arrive au CMP de la ville. Il a déjà pris le bus, qui était extrêmement un effort très, très important pour lui. Il arrive au CMP, il sonne, et on lui dit c'est pourquoi, enfin, d'une manière sans doute vraisemblablement assez aimable. Et il dit, ben voilà, on m'a dit de venir pour la consultation. Ah, ben non, nous revenons au type qui a coulé de tout à l'heure. Non, non, il fallait que la demande vienne de lui. Donc il est reparti, parce qu'il ne savait pas formuler la demande autrement. Donc, voilà. Donc, on n'a pas besoin nécessairement du sujet que les institutions construisent. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses à faire là-dessus. Bon. Donc, ça, c'était la première partie de mon exposé sur l'idée que, en gros, les institutions sociales ont produit à la fois un travail sur elles-mêmes qui vise à fractionner l'action et à désinstitutionnaliser. En gros, éclater, aller davantage vers le public. Et en même temps, on construit un sujet paradoxal, qui est un sujet auquel on demande d'être autonome, sans que, évidemment, le timing ou les rythmes de conquête de cette autonomie aient jamais été débattus. Et si vous disiez, par exemple, que les gens dont vous vous occupez, ils ont besoin de 10 ans peut-être pour être autonomes, qui va accepter de vous financer ? Donc voilà, c'est un des paradoxes de la situation. Donc, une des modalités qui a été trouvée, encore une fois, en dehors de la France, pour accompagner dans ce contexte dont je parle, c'est cette notion d'empowerment. C'est-à-dire... que l'idée a été que, essentiellement au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, l'idée qu'on pouvait en quelque sorte être davantage en accord avec l'impératif d'autonomie dont j'ai parlé tout à l'heure, si on pratiquait l'accompagnement d'une autre façon que celle à laquelle, en gros, les dispositifs compensatoires encore très puissants nous avaient habitués, à savoir, en gros, c'est comme moi le professionnel, c'est comme moi je sais quand même ce qui est bon pour toi. Avec l'idée que peut-être on pouvait faire autrement. Et c'est là qu'intervient cette notion d'empowerment. Permettez-moi, de toute façon vous êtes obligés, permettez-moi juste de faire d'abord un petit travail de définition. Si vous arrivez à lire, sinon vous verrez là. Donc vous voyez... C'est un mot qu'on peut traduire de différentes façons. Les gens ne sont pas d'accord, et moi je ne suis pas d'accord avec les traductions existantes, sur cette notion. Mais vous voyez, il y a trois morceaux. M, power, et ment. Alors, vous voyez, dans l'idée que cet empowerment, il y a le M, ça veut dire que là, on est sur l'idée qu'il y a une action sûre. Hein. Donc, on pourrait dire qu'il y a une dimension d'aide. Power, alors c'est ça qui pose problème. Parce que power, pour nous, Français, quand on entend le power anglais, on pense pouvoir. À la rigueur, éventuellement capacité. Et moi, je vous demande d'entendre plutôt puissance. Évidemment, vous n'êtes pas obligé. Mais l'idée que s'il y a en quelque sorte la sollicitation d'une force ou l'aide à ce qu'une force se manifeste. Et puis ment, ben ça c'est quand même qu'il faut qu'il... dire, c'est pas tout de dire ça, mais il faut quand même qu'il y ait un résultat, il faut qu'il y ait un effet visible. Hein, il faut qu'il y ait un effet, même lent, même petit, mais il faut qu'il y ait un effet visible. Donc l'idée d'empowerment, telle que moi je la vois, ce serait... Vous voyez, je propose cette traduction, aider à recouvrer ou à trouver, si ça n'a jamais été le cas, la puissance d'être soi. C'est-à-dire, en gros, il y a l'idée d'une puissance qui n'est pas un pouvoir sur soi ni sur autrui. Ça serait effectivement peut-être une mauvaise idée. Mais dans l'idée d'accompagnement, il pourrait y avoir cette idée de travailler sur la puissance des individus plutôt que sur leur pouvoir. Et évidemment, bon, je passe sur les trucs. La fin de la diapositive, c'est purement savant, c'est purement cuistre. Donc, on passe. J'ai résumé ça par un schéma. Ah, enfin, tu la formules, ta demande. Voilà. Hein, en gros, voilà, vous avez le mouvement qui donne les trois dimensions. Alors, capacité. Au Canada, on traduit souvent empowerment par capacitation. Et ça insiste beaucoup trop, à mon sens, sur l'idée de capacité, donc sur l'idée de compétence descriptible. Alors que, évidemment, vous savez tous, alors vous savez même mieux que moi, combien ça dépasse largement une question de capacité de compétence descriptible, et que s'il y a compétence, ce n'est pas des compétences au sens scolaire du terme, voire même au sens d'employabilité du travail, mais c'est des compétences en termes de relations aux autres, mais aussi, surtout, de relations à soi-même. Et puis, il y a donc l'idée de pouvoir. Alors, je n'élimine pas complètement l'idée de pouvoir dans Empowerment, parce qu'il y a quand même l'idée qu'à un moment donné, il faut arriver à actionner des leviers de, par exemple, de demande d'emploi ou de démarche vers l'emploi, ou des leviers de... d'estime de soi. Et c'est pourquoi je n'oublie pas la dimension de force. Bon, voilà. Donc, sur la notion d'empowerment. Pour l'instant, on est bien, parce qu'on se dit, voilà, ça, empowerment, c'est ce qu'on devrait faire avec les gens dont nous occupons, pour que, en gros, on parte de là où ils en sont, et non pas donc là où on voudrait qu'ils soient. Et puis, on essaye de suivre à leur rythme pour aller bien. Le jour où il faudra faire le bilan de fin d'année, ben on bidouillera. Bon, on masquera habilement le fait qu'un tel n'est pas prêt et alors qu'on dit qu'il l'est. Bon. Mais moi, je voudrais que vous ne vous oubliez pas dans l'affaire. Parce que l'empowerment des destinataires ne marchera bien et ne sera pas une illusion néolibérale que... s'il y a un empowerment des destinateurs, c'est-à-dire de ceux qui sont les auteurs de l'action, vous, et en particulier cet empowerment des destinateurs, il a toutes les chances d'être meilleur s'il est collectif que s'il est individuel. Au fond, pour aller vite, je dirais, lorsqu'il y a des réunions d'équipe, lorsqu'il y a des réunions de service, nous commençons par le plus difficile. Le plus difficile, c'est quoi? C'est interroger sur l'individu sur sa propre pratique, en gros, faire son autocritique, faire son examen de conscience, etc. C'est le plus difficile. Pourquoi ne pas commencer par l'autocritique de l'équipe qui permet ensuite de mieux situer les individus? Donc, un empowerment d'équipe, c'est très important. Alors, pourquoi c'est très important? Là, je voudrais insister sur... Alors, vous allez trouver que c'est abstrait. Tant pis, on a besoin un peu d'abstraction dans la vie. De toute façon, quand vous employez des mots comme insertion, c'est abstrait. Hein. La différence entre trajet et transport et la différence entre maillage et réseau. En gros, essayons, c'est pas vous, hein, essayons d'imaginer quelqu'un qui serait là et qui n'est pas vous. Pas vous surtout, hein, et qui dit, voilà, bon, moi, j'ai un boulot, j'ai un CDI, maintenant je vais, bon, je vais peut-être progresser un peu, mais bon, voilà. Je serais tenté de dire, je vais me transporter tranquillement d'un point A à un point B, qui est la fin de ma carrière. Et je pourrais dire, ben voilà, finalement, ce que je vais demander à mon bénéficiaire, à mon destinataire, c'est mieux que bénéficiaire, parce que les bénéfices, c'est vous qui les décidez. Je vais lui demander, lui aussi, de se transporter du point où il est en non-emploi au point où il est en emploi. Il va se transporter. Mais ce qui est en jeu, c'est en quelque sorte une espèce d'étape dans laquelle vous l'inscrivez et il se laisse piloter. Et ça, ce n'est pas tellement autonomiste comme conception. Alors que l'idée de trajet, c'est quoi? L'idée de trajet, c'est que voilà, le trajet, c'est celui qu'on a accompli. Ce n'est pas celui qu'on doit accomplir. Le trajet, c'est celui qui consiste à dire « Ah oui, je suis à l'étape B, avant j'étais à l'étape A », et non pas à dire « De A, je dois aller vers B ». Trajet, c'est différent. Et si on mettait un peu plus souvent du trajet et un peu moins souvent du transport? Or, le transport, c'est plus facile, ne serait-ce que pour un professionnel. C'est plus facile, parce que ça rentre dans les bilans, ça rentre dans les descriptions, et c'est évaluable. Ah, il était là, oh, il a progressé, oh, il a progressé. Oui, il a progressé. Vous estimez qu'il a progressé. C'est pas vous, hein. Je dis vous, mais c'est pas vous, vous êtes bien. Donc, l'idée, c'est que ça, c'est possible, seulement si on revient sur une autre distinction, celle que je fais entre maillage et réseau, qui est la même. Aujourd'hui, réseau, oh, c'est super, réseau, c'est le must. On travaille en réseau, on est en réseau. Mais il y a des réseaux qui sont de véritables toiles d'araignée. Et qu'est-ce que c'est une toile d'araignée? C'est une fois que vous êtes dedans, vous n'en sortez plus. Donc, bien sûr, oui, tout est connecté. Hein, vous pouvez même un coup de téléphone, c'est bon, ah, tu me prends machin, oui, oui. Bon. Maillage, c'est autre chose. Le maillage, ça veut dire qu'on construit, avec la personne accompagnée, on construit le chemin vers l'autre. L'autre service, l'autre... etc. Donc vous voyez, il y a toujours dans ce que je dis une dimension de travail collectif, pas seulement à l'intérieur d'une institution donnée, mais entre institutions. Et surtout, n'appelez pas ça partenariat, s'il vous plaît. Je ne sais pas si ce que je dis rentre dans les diapos, mais ça n'a pas d'importance. Alors, là, j'ai essayé de vous présenter l'idée d'empowerment comme quelque chose qui va porter sur, en gros, ce qu'on devrait dire, c'est que tout individu, donc y compris nous qui sommes ici, sommes confrontés en permanence à la nécessité d'un empowerment, c'est-à-dire à la nécessité d'assumer le mieux possible la puissance d'être soi. Donc c'est un travail interminable, bon, voilà, en gros, c'est une idée d'intello, quoi. Hein. Mais, quand même, on doit pouvoir inscrire ça dans des politiques publiques de façon plus... Il n'est pas beau ce schéma? Ah, vous êtes obligé de dire si. Ah oui, oui, sur du blanc. Mais oui, mais il faut qu'il y ait une petite... Il faut que je réalise mon empowerment la prochaine fois mieux. Donc, en gros, c'est l'idée que... Prenez d'abord la partie du schéma qui est la plus à droite, celle qui est en blanc sur fond, encadrée de blanc. Avec l'idée que... Si on situe la démarche d'empowerment dans une démarche d'accompagnement global, il faudrait la situer par rapport à deux autres démarches. L'une qui est, que j'emprunte ça au secteur de la toxicomanie, mais c'est une façon de l'élargir, l'une qu'on pourrait dire à bas seuil et l'autre qu'on pourrait dire contractuelle. En gros, c'est quoi? C'est l'idée que si je fais un accompagnement à basse œil, ben c'est simple. Basse œil, ça veut dire que je n'ai presque pas à lever le pied pour entrer dans la maison. Donc le seuil est bas. Ça veut dire quoi que le seuil soit bas? Ça veut dire que les contreparties attendues du service que vous donnez sont faibles. C'est-à-dire, en gros, vous n'attendez pas, vous prenez. Ah ouais, bah aujourd'hui, c'est tout à fait ça. Bon, voilà. Bon. Enfin, c'est le basse œil. À l'autre extrême, vous avez l'activation contractuelle, où désormais, là, vous entrez dans une démarche de coopération avec le destinataire, dans laquelle il y a bah, des contreparties. Il y a, en gros, des choses à ne pas faire, des choses qu'il faudrait faire, des choses... Tu avais dit que tu le ferais, tu ne l'as pas fait. Et comment est-ce qu'on peut revoir ça? Et entre les deux, moi, je situerais la démarche d'empowerment comme quelque chose qui serait le va-et-vient entre une espèce de seuil minimal que serait une faible exigence de contrepartie et une forte exigence qui est contractuelle. Pourquoi c'est important qu'il y ait du contractuel quand même? Pourquoi est-ce que tout ne se résout pas par l'empowerment? C'est parce que le travail que vous avez à faire d'accompagnement, il a quand même comme objectif métaphysique, parce que peut-être c'est le mot qui convient, l'idée que d'une forme d'insertion dans la compétition globale. C'est-à-dire que le contrat est censé préparer l'idée d'entrer dans une société contractuelle, une société dans laquelle il y a des droits et des devoirs, etc. Donc, il n'est pas question de l'exclure. Simplement, il est question de dire, voilà, le travail d'accompagnement, finalement, tel que vous le pratiquez, c'est ces trois choses à la fois, c'est ces trois choses combinées, c'est ces trois choses éventuellement séparées dans le temps en fonction des personnes, en fonction des personnes dans l'état dans lequel vous les trouvez, mais ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Je détaille pas le schéma, vous regarderez ça à tête reposée. Je pense qu'il est... Juste, je n'ai pas expliqué proto-professionnalisation. Ça nous ramène encore une fois à la question de l'insertion et du seuil à franchir. On va considérer que nous tous ici, nous sommes proto-professionnalisés. Qu'est-ce que ça veut dire proto-professionnalisé? Ça veut dire que quand, par exemple, vous allez chez le médecin, vous savez ce qu'il faut faire pour être reconnu malade. Je ne parle pas de simuler. Hein. Je parle de l'acte que le médecin attend de vous. Alors, il y a des caricatures. C'est les médecins spécialistes. J'étais lundi chez l'ophtalmo. J'ai vu l'ophtalmo après avoir passé entre les pattes de plusieurs de ses collaborateurs qui avaient tous fait une partie de l'acte. Et puis, j'arrivais à la fin. Et à chaque fois, on me demandait de faire des choses. Aujourd'hui, quand vous sollicitez une plateforme pour la réparation d'un de vos appareils qui ne fonctionne pas, on vous demande de coopérer à la réparation. Donc, on est bien. Il n'y a pas de société si, en quelque sorte, les professionnels ont affaire à des gens qui ne font rien. Nous, la proto-professionnalisation est une caractéristique de la société. Le problème, c'est que les gens dont vous vous occupez, précisément, ils sont en deçà de la proto-professionnalisation. Il y a un certain nombre de ces gestes qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus et ou qu'ils n'identifient pas comme les ayant. Ce qui est encore plus simple. C'est-à-dire que c'est toujours la question de la subjectivation qui est en jeu. Et donc, d'une certaine manière, l'activation contractuelle, le dernier étage, il vise à préparer le passage à la proto-professionnalisation des individus. Hein, vous voyez, c'est un terme un peu long, proto-professionnalisation, mais ça veut dire clairement, et c'est de plus en plus vrai, clairement que le professionnel dans notre société, donc y compris vous, ne peut pas fonctionner sans la coopération de la personne à qui il produit un service. Ce qui, dans votre cas, est un problème d'autant plus compliqué que vous avez des gens qui ne sont pas proto-professionnalisés et à qui, donc, lorsque vous produisez votre service, vous êtes en quelque sorte en porte-à-faux. Hein, vous produisez un service. Vous êtes censé être des professionnels dans des conditions où le professionnalisme ne peut honnêtement pas s'exercer. Donc, c'est une difficulté. C'est une difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Mais ça veut dire que votre travail est plus difficile qu'il n'y paraît. Il est plus difficile que celui du dentiste. Parce que le dentiste a quelqu'un qui est capable de... Vous ouvrez la bouche, vous ne fermez plus. Hein. Voilà. D'où dans les visiteurs, la femme qui a été oubliée sur la sieste du dentiste. Bon. Donc, je continue. Donc, là, pour l'instant, j'ai parlé de l'empowerment des personnes. Mais, je l'ai dit, il faut aussi parler de l'empowerment des équipes, c'est-à-dire des professionnels en tant qu'ils sont des membres d'un collectif de travail. Bon, certains d'entre vous, peut-être, travaillent tout seuls. Donc, c'est un peu plus difficile de se considérer comme membre d'un collectif de travail. Mais en général, quand ils travaillent tout seuls, ils travaillent avec d'autres équipes en dehors de leur institution. Ou s'ils travaillent tout seuls, évidemment, je les plains un peu. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a une réflexion comme celle qui est censée aboutir au bout de ce stage que vous faites, enfin, au bout de cette formation, je ne sais pas quel est le nom savant, le nom intéressant qui a été retenu, mais peu importe. Ce qui est au bout, c'est normalement une meilleure prise en compte du travail d'accompagnement par vous-même. Donc, d'une certaine manière, il n'y a rien de plus terrible que de rentrer d'un stage, je trouve. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous entrez d'un stage, vous êtes à fond. Vous rentrez, les autres à côté, ils n'ont pas été en stage. Et donc, d'une certaine manière, c'est la vraie difficulté de traduire un enthousiasme momentané, enthousiasme, n'exagérons pas, en tout cas, un intérêt momentané, et qui doit se traduire après. Et c'est l'une des clés, je crois, de l'empowerment d'équipe. C'est-à-dire qu'en gros, le travail ne peut être que collectif. Le travail, non pas, ça ne veut pas dire que chacun n'a pas une tâche différente à accomplir, mais il ne peut être que collectif dans la façon d'envisager la finalité du travail. Et l'idée, c'est que cette réflexivité, cette façon de voir les problèmes, doit nous amener à quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est très important à mes yeux, qui est le type de regard que nous portons sur notre propre impuissance. Évidemment, je suis comme tout le monde, je préfère être puissant qu'impuissant. Mais je constate comme tout le monde qu'il y a parfois des moments où je ne peux rien faire. Et je dis, bon, ça ne dépend pas de moi, j'y peux rien. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Je voudrais que on cesse de regarder l'impuissance de cette façon, qui est en quelque sorte un acte de contrition individuelle. Il n'y a plus de confessionnal, plus beaucoup de confessionnal, mais c'est la même chose. Et que on essaye de comprendre que l'impuissance, d'abord, c'est l'impuissance d'un collectif avant d'être celle d'un individu. Et l'impuissance d'un collectif, elle se situe par rapport à d'autres collectifs. Peut-être que ce que je n'arrive pas à faire moi, peut-être que d'autres peuvent le faire si je les sollicite. Et peut-être que d'autres peuvent le faire sans avoir la prétention de faire ce que je fais. Je prends un exemple qui a été pendant longtemps ma spécialité, qui est les violences conjugales. Enfin, je ne veux pas dire que j'ai été spécialiste, non, je veux dire que je me suis occupé des gens qui s'occupaient de violences conjugales. Je pense que c'était clair. Clairement, parfois, j'ai vu des équipes démoralisées. L'impression d'un travail qui avait été fait. En gros, des gens qui étaient arrivés presque au niveau de l'activation contractuelle, et puis que, bon voilà, tac, entre-temps le conjoint est sorti de prison, et paf, c'est reparti. Et l'idée, c'était que, ben voilà, tout le travail foutu par terre, il faut recommencer. Bon, ils sont prêts à recommencer, évidemment. Mais il y a l'idée qu'il y a des gens qui sont en première ligne, les policiers, des travailleurs sociaux non spécialisés dans les violences conjugales. Ils sont en première ligne, mais eux, finalement, on ne se coordonne pas avec eux. Bah, je dirais, d'une certaine manière, il en va de même pour l'accompagnement à l'emploi. Il est possible qu'il y ait des gens pas du tout spécialistes de l'accompagnement qui peuvent faire un travail de première ligne intéressant là où vous êtes impuissant, individuellement ou collectivement. Donc, je voudrais qu'on change de regard sur l'impuissance parce que ça a une conséquence. C'est la question de l'humilité professionnelle. Parce qu'en fait, derrière l'idée que ah ben c'est la faute du collègue qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas au niveau, il y a l'idée que le professionnalisme des individus se mesure à la réussite, alors qu'il pourrait se mesurer à d'autres critères que la réussite. Et donc, d'une certaine manière, cette question de la puissance et de l'impuissance, elle est au cœur de ce que je veux dire. Et ça suppose, ça c'est un petit schéma que j'avais fait, ça suppose qu'on reconnaisse aussi que dans une équipe de travail, tout le monde n'est pas attaché de la même manière et au même degré au dispositif. Et on doit faire avec. Alors que la tendance, c'est plutôt de se débarrasser des brebis galeuses. Il dit, ben voilà, par exemple, vous voyez, dans mon schéma, il y a quelqu'un là qui, sur le plan, ben c'est pas très lisible, donc on va laisser tomber. Donc en gros, des gens qui, par exemple, vont être très attachés à des dispositifs de travail en tant qu'ils sont des dispositifs de, par exemple, très concrets, très visibles, etc., qui seront moins intéressés par la question des modèles. Il va y avoir une réunion d'équipe, ils vont s'emmerder ferme au fond de la salle en attendant que la réunion y soit terminée. Avisez-vous de partir, là, avant que j'ai fini. Vous allez voir. Ouais. Non, mais après, il va y avoir des différents impératifs professionnels. Je n'en doute pas, et personnels. Mais, donc, vous voyez, l'inégal attachement au dispositif, c'est une question clé dans votre secteur de travail. Parce que des dispositifs inventifs, il y en a. Surtout, fuyez-les. Fuyez les dispositifs parfaits. Personne n'a envie d'entrer dans un dispositif parfait. Il faut entrer dans des dispositifs imparfaits. On se sent beaucoup plus à l'aise. Donc, d'une certaine manière, ça veut dire que... Bon, c'est une blague, mais c'est une blague que vous devez entendre, dont vous devez entendre l'arrière-plan. L'idée que... c'est quand la mère dit au fils « je veux que tu sois libre », il n'a pas du tout envie d'entrer dans ce plan-là. Hein, parce que c'est le désir de sa mère. Pareil. Hein, j'entends... Quand j'ai raconté tout à l'heure l'histoire des travailleurs sociaux qui s'occupaient du RMI dans les années fin des années 80, l'idée, ce que j'ai restitué tout à l'heure, on ne sait pas faire, on n'a pas appris, on fait n'importe quoi. Et puis deuxième temps, ouais, mais de toute façon, personne ne ferait mieux que nous pour l'instant. On fait le moins mal possible. Voilà. On est dans quelque chose qui est une forme de lucidité professionnelle. Parce qu'on a le droit quand même d'être fier de ce qu'on fait. Ce que je ne veux pas dire par l'idée de l'humilité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être fier, ça veut dire simplement qu'il faut accepter de reconnaître des zones d'impuissance. Et le jour où on arrive à délimiter les zones d'impuissance, on a beaucoup progressé. J'en ai presque terminé. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un titre provocateur. La puissance s'éprouve d'abord dans l'impuissance. Bon, j'ai plus ou moins d'expliquer déjà tout ça. Voilà, je vais juste commenter ce schéma. En gros, pour situer un peu, parce que vous voyez, là je parle de vous, hein, de vous en tant qu'intervenant, et pas de ce que vous devez faire, subir à ceux auprès de qui vous intervenez. Et je dirais, il y a deux dynamiques qui sont en jeu. Il y a une dynamique des compétences qui est verticale là, et qui nous fait aller d'une, ce que j'appelle l'expertise de team. C'est-à-dire, en gros, il y a des compétences, elles sont parfaitement identifiées, et on les attribue au secteur dans lequel elles vont donner leur pleine mesure. Et en général, ces compétences-là, elles se concentrent dans les directions. Les directions sont toujours pour les dispositifs. Personnellement, quand j'ai travaillé sur les violences conjugales, je n'ai jamais eu de problème avec les directions. J'ai eu beaucoup plus de problèmes avec la base. Ben, ça pose un problème. Ça pose le problème que l'équipe n'avance pas si seulement la direction avance. C'est-à-dire si seulement il y a de l'expertise de team. Il faut que cette expertise soit une expertise que j'appelle distribuée. Qu'est-ce que c'est une expertise distribuée ? C'est une expertise dans laquelle personne n'a les éléments qui, pris ensemble, font la compétence. C'est-à-dire qu'elle n'est là, la compétence, qu'à travers la collection des individus présents. Ça, c'est la dynamique des compétences. Et évidemment que ça joue un rôle dans le travail d'empowerment. Horizontalement, la dynamique de coopération. Alors là, je parle de coopération aussi bien à l'intérieur d'équipe que entre équipes. Hein, les deux. La dynamique de coopération, c'est celle que nous connaissons tous, ce que j'appelle la coopétition. C'est-à-dire c'est une coopération qui en fait est une compétition déguisée. Alors, la compétition peut avoir plusieurs motifs. Ça peut être une compétition pour la meilleure prestation, ça peut être une compétition pour monopoliser un terrain, voire pour monopoliser des destinataires, parce qu'il y a des financements à la clé, etc. Bon, bref, ça peut être différentes choses. Mais la compétition, c'est le règne de la défiance. De la défiance. À l'autre extrémité, il y a ce que j'appelle la coopération informelle, qui repose sur la confiance dans les personnes. Et bien ça, c'est difficile à obtenir. D'où je propose l'étape intermédiaire, qui est au centre du schéma, la coopération formelle, c'est-à-dire l'idée qu'à défaut d'avoir confiance dans les personnes, on pourrait avoir confiance dans des dispositifs, s'ils sont orientés tels que j'ai défini jusqu'ici. Donc d'une certaine manière, cet empowerment d'équipe pourrait reposer sur l'articulation de ces deux dimensions. Aller vers une expertise distribuée plutôt que vers une expertise savante, et aller vers une coopération informelle, c'est-à-dire reposant sur la confiance plutôt que sur la défiance. Bon, tu l'as dit, Bouffi, encore faut-il le faire. Bon, le reste, c'est bon, je laisse tomber. C'était juste la truc de conclusion. Il y avait un beau schéma, mais ce serait trop long de le commenter. De toute façon, vous aurez tout ça. Alors, juste le résumé, la conclusion. Quatre idées, quatre principes pour transformer les pouvoirs en puissance. Donc, la première chose, je disais, redéfinir l'idée même d'objectif. Donc, l'idée d'empowerment, c'est prendre les gens là où ils sont, plutôt pour ce qu'ils sont. Ce qui pose un problème majeur. C'est celui de l'identification que nous faisons des personnes dont nous nous occupons. D'ailleurs, encore une fois, la subjectivation. Quel est le type de sujet que nous croyons avoir en face de nous ? Défini à partir d'un certain nombre de paramètres. Eh bien, peut-être qu'il faut procéder autrement et prendre les gens donc là où ils en sont. Deuxième chose, changer le sens de la durée des prises en charge. Plus facile à dire qu'à faire. Hein ? Mais c'est bien la question du rythme de progression, et l'idée même de progression qui peut être mise en cause, avec l'idée que, encore une fois, faire un trajet, c'est mieux qu'être transporté ou que transporter. Et juste une anecdote en passant. Tout à l'heure, je vous ai dit les trois temps, en commençant les trois temps du travail social. Il y a une vingtaine d'années, j'animais une réunion comme celle-ci, dans une cité en Moselle-Est, et vers midi moins, j'avais devant un enthousiasme général de toutes les gens qui étaient là. Tout le monde avait adhéré, ouah, la démarche autonomiste. Et à midi moins 10, il y a une des participantes qui demande la possibilité de s'en aller. Et tous les autres rigolent. Alors une fois qu'elle est partie, j'ai quand même demandé à avoir des explications pour pourquoi tout le monde rigolait. Et elle m'a dit, vous savez ce qu'elle va faire ? Elle va chercher Madame Machin pour l'amener avec sa propre voiture à un autre endroit. Donc, en fait, faire une démarche qui, traditionnellement, était qualifiée d'additive, c'est-à-dire le premier temps. Et moi, je n'ai pas rigolé, parce que nous savons tous qu'il est difficile de se séparer de démarches purement additives, qu'il y en a, de la même façon qu'il y a des dispositifs compensatoires dont on a besoin. Donc, prenons bien ça en compte. Hein. Donc, je reprends mon propos, faire un trajet se substitue à être transporté. Ça ne veut pas dire qu'on ne transporte plus. C'est ça que ça veut dire. Troisième chose, mobiliser les collectifs de pairs. C'est le danger du professionnel. C'est de croire qu'il peut tout faire tout seul. Et que s'il ne peut pas faire tout seul, c'est que personne ne peut faire quoi que ce soit. Donc, la question de la mobilisation de l'environnement, il y a longtemps que les associations, par la force des choses, par le manque de subventions, sont obligées de fonctionner avec ça. Mais d'une certaine manière, ça concerne aussi le professionnel. Troisième, dernière chose, aider à admettre ses impuissances, c'est-à-dire tout ce que j'ai expliqué, je ne vais pas réexpliquer, admettre qu'il y ait des zones d'impuissance qui puissent être couvertes par d'autres personnes ou par d'autres dispositifs et travailler en coopération. Voilà. Donc, ça, c'était la dernière diapo. Je vais en rester là. Juste un mot, une remarque d'ensemble. Ce que j'ai dit là, ça ne s'applique pas spécifiquement uniquement à la question de l'aide au retour à l'emploi ou de l'accompagnement au retour à l'emploi. C'est un phénomène plus général. Mais je voulais que vous ayez conscience, si ce n'était pas déjà le cas, peut-être c'était déjà le cas, que ça participe d'un mouvement plus général et que les avancées, les reculades dans ce domaine, elles concernent parfois un secteur, et dans d'autres secteurs, ça va bien, mais ça peut revenir dans le secteur où ça va bien. Donc, ayons conscience qu'on ne peut pas rester le nez collé sur la question de l'aide au retour à l'emploi comme seule ressource pour aider au retour à l'emploi. C'est ça l'idée que je voulais. C'est une façon de dire que je me permets de m'adresser à vous alors que je ne suis pas un spécialiste de l'aide au retour à l'emploi. C'est quand même un tour de passe-passe que je vous ai proposé. Merci de votre attention. Je peux répondre aux questions que vous souhaitez.